Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Le 17 novembre, le Secours catholique a sorti son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Dans la métropole de Lyon et le département du Rhône, un millier de bénévoles sont répartis dans les 41 lieux d'accueil. La tendance n'est pas à l'amélioration et la situation des migrants vient gonfler les besoins. Rencontre avec Pierre Keller, délégué du Rhône du Secours catholique, et Abdou, un migrant togolais. Alors Pierre Keller, quel est le tableau dressé cette année par le Secours catholique du Rhône ?
Ce qu'on peut dire globalement, si vous voulez, c'est que nous, Secours catholique du Rhône, on rencontre à peu près 7000 familles correspondant à 1500 personnes. Et je pense que pour moi, le chiffre qui est important, c'est que on a 37% des personnes en 2015 que nous avons rencontrées sont sans revenu, 0 euro. Et que pour celles qui ont un revenu, le revenu moyen est de 567 euros. Donc, si vous voulez, 83% des personnes qu'on rencontre sont en dessous de ce que l'INSEE appelle le niveau de pauvreté à 40%, c'est d'ailleurs le niveau de la très grande pauvreté. Ça, c'est la réalité des personnes qu'on rencontre. Donc on rencontre vraiment les personnes qui sont les plus en précarité aujourd'hui dans le département.
C'est nouveau ? Il y a une évolution ?
Non, c'est stable. Il n'y a pas d'amélioration. Ce qui évolue, c'est que les dépenses contraintes, c'est-à-dire tout ce qui est logement, électricité, assurance, etc., tout ce qu'on est obligé de dépenser avant de commencer à manger, je dirais, ça mange de plus en plus les maigres revenus des personnes. Ce qui fait que ce qu'on appelle leur reste à vivre diminue année après année. Si vous voulez, l'inflation, entre guillemets, pour les plus pauvres, elle est beaucoup plus élevée que pour les classes moyennes ou les classes aisées. Donc c'est ça qui donne la réalité de l'accentuation de la pauvreté.
L'an dernier, le pape avait appelé chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d'Europe à accueillir une famille de réfugiés. Quelle a été la réaction dans le Rhône ?
Beaucoup de paroisses ou de groupes locaux dans les différentes communes se sont mobilisés et plus de 50 familles aujourd'hui sont hébergées par ces différents groupes un peu partout dans le département, avec une coordination au niveau du diocèse de Lyon qui apporte une aide sur la méthodologie, la formation, les différents droits qui existent, etc. Et dans lequel le Secours catholique est impliqué en soutien. Ce que ça change beaucoup, c'est que ça permet qu'il y ait davantage de personnes, qu'il y ait une rencontre concrète avec des personnes migrantes. Ce qui est important, c'est de rencontrer les personnes. C'est pas juste de parler de choses qu'on ne connaît pas. La rencontre, ne serait-ce que d'une personne, une famille migrante, et de devoir l'accompagner très concrètement dans des démarches de la vie quotidienne, ça fait changer notre regard sur la réalité de la migration et sur la réalité de la détresse de ces personnes. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a plusieurs centaines, j'allais dire, de nouveaux bénévoles, quelque part, peu importe qu'ils soient au Secours catholique ou ailleurs, qui ont pris conscience de la réalité de la migration.
Quel est le profil des personnes accueillies au Secours catholique ?
Le profil, c'est des personnes qui ont des très faibles revenus, voire pas de revenus. Il y a des familles monoparentales, des mères avec enfants, suite à des ruptures familiales, des hommes seuls. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Et puis, une proportion importante aussi de personnes migrantes dans différents types de situations, soit demandeurs d'asile ou en attente de régularisation.
Ça fait 5 ans que la gauche est au pouvoir. Elle est a priori plus concernée par ces questions de pauvreté. Quel changement avez-vous remarqué ?
Quand on regarde des indicateurs que nous donne l'INSEE, qui n'est ni de gauche ni de droite, on voit bien que, grosso modo, la situation depuis 4-5 ans ne s'améliore pas, a plutôt tendance à se dégrader un petit peu. Il faut faire la part des choses. Il y a eu des améliorations, par exemple, sur l'augmentation du niveau du RSA, qui se trouve était une promesse de campagne de François Hollande qui a été respectée. C'est une réalité. Donc ça, c'est bien pour ces personnes-là. Mais tout ceci est mangé, notamment par la hausse du coût de l'énergie et du coût du logement. Et donc, bien qu'il y ait des efforts faits, et dans beaucoup d'autres domaines aussi, malheureusement, pour les plus pauvres, la situation ne s'améliore pas. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est très important dans le contexte actuel, c'est que nous sommes dans un pays riche, dans lequel la richesse augmente année après année. Bon, certes, il y a eu la crise de 2008, mais globalement, quand vous regardez sur la grande tendance, la richesse ne fait qu'augmenter dans ce pays. Par contre, ce qui est nouveau depuis une dizaine d'années, c'est que toute l'augmentation de la richesse va aux classes les plus aisées. C'est-à-dire que les 10% les plus pauvres en France, leur richesse ne s'accroît pas. toute l'augmentation de la richesse dans notre pays va aux classes les plus aisées.
Alors on va revenir un petit peu sur la situation des migrants. Comment la donne a-t-elle changé depuis une grosse année, on va dire? Qu'est-ce que ça a changé, cette arrivée massive des migrants en France et dans la région notamment?
En tout cas, pour ce qui concerne notre action, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'engagent au quotidien avec une famille ou une personne, soit dans de l'hébergement, soit dans de l'accompagnement, soit simplement dans une rencontre amicale. Les migrants, ils ont d'abord besoin de rencontrer des Français, de faire une balade, une sortie, de découvrir la ville. Voilà. Donc ça, c'est une première chose qui a changé. Après, il y a peut-être d'autres choses qui ont changé dans l'univers médiatique, mais je pense que toutes les personnes qui rencontrent effectivement des migrants et qui prennent le temps de les écouter, d'écouter leur parcours, d'écouter leur vie, prennent bien conscience qu'aujourd'hui, ces personnes-là, elles n'ont qu'une envie, c'est échapper à la guerre, échapper aux persécutions, vivre tranquillement, travailler, étudier. Voilà.
Ce qui ressort de votre rapport, c'est que les personnes que vous accueillez ont majoritairement, une très grande majorité, besoin d'être écoutées. C'est quelque chose qui est nouveau, ça ?
Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose à laquelle on prête beaucoup attention. Il y a des grandes associations qui sont très focalisées sur des questions de distribution alimentaire ou de vêtements ou de bric-à-brac. C'est très bien, mais nous, notre premier accent, il est sur la rencontre des personnes. Il est sur le fait que les personnes puissent exister en tant que personnes humaines, rencontrer des gens, avoir une vie sociale, sortir de l'isolement. Et à partir de là, elles sont en capacité de reconstruire des capacités d'autonomie et de se projeter. On a entendu des témoignages où les gens disaient « voilà, maintenant je peux avoir un projet ». Alors qu'avant, j'avais plus de projet.
Concrètement, quelle est l'action du Secours catholique en faveur des migrants? Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les expliquer un petit peu, nous les détailler?
Au niveau des migrants, c'est assez simple. Ce qu'on ne fait pas, c'est de l'hébergement. Ce qu'on fait, c'est tout le reste. C'est-à-dire, d'abord, un accueil où on peut déjà s'asseoir, parce que beaucoup sont à la rue, boire un café et un petit gâteau, rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, déjà un accueil convivial. Ensuite, c'est l'accompagnement pour toutes les démarches administratives et juridique. Ensuite, c'est aussi l'apprentissage du français. On a des cours de français un peu partout dans le Rhône et ça prend de plus en plus de place, mais c'est essentiel pour s'intégrer. Il faut parler la langue. Et puis ensuite, c'est toutes sortes d'activités diversifiées. Ça peut être un atelier couture, ça peut être une équipe de foot, ça peut être des balades dans la ville, ça peut être des sorties ensemble, des fêtes, fêter Noël ensemble, etc. Donc, toutes ces actions qui, en fait, vont permettre à ces personnes de ne pas être isolées, de créer du lien avec d'autres et ensemble de trouver de la force pour traverser ces passages difficiles. Également, ce qu'on propose, parce que les migrants sont pour beaucoup des personnes qualifiées, qui ont beaucoup de compétences, et donc on leur propose tout simplement d'être bénévoles parmi nous. Il y en a qui sont coiffeurs, il y en a qui sont infographistes, etc.
Quel est, selon vous, le principal ou les principaux problèmes, points faibles aujourd'hui à Lyon, dans la métropole? C'est quoi? C'est le manque de logements sociaux, surtout?
On a un grave problème depuis des années et des années de insuffisance de logements sociaux et surtout de logements très sociaux. Et donc, il y a une forme d'engorgement de tous les dispositifs. Il y a des gros efforts qui sont mis en œuvre par l'État et par les collectivités dans ce domaine-là. La question n'est pas de dire qu'il ne faut rien, ce n'est pas vrai. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et année après année, on a un déficit de logement et d'hébergement qui est très préjudiciable parce que du coup, 3000 personnes à la rue.
Vous nous parliez tout à l'heure de l'isolement, du coup du transport à la demande. Avec une situation qui se dégrade, comment ça? Comment ça se passe?
Il y a eu une réforme des collectivités il y a un an ou deux. Les transports au niveau des grands centres urbains fonctionnent bien, mais en milieu rural, c'est beaucoup plus compliqué. Les personnes sont isolées et pourtant elles ont besoin de faire des démarches aussi simples que d'aller au marché, chez le médecin, à la pharmacie ou rendre visite à des amis. Il y a dans certains secteurs un déficit d'offres de transport à la demande ou transport adapté, ou alors un coût trop élevé par rapport précisément à ces personnes isolées à faible revenu qui n'ont pas de voiture et donc un risque très fort d'aggravation de leur isolement.
En cette période électorale, finalement, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez l'impression qu'on entend suffisamment la voix de ces personnes pauvres?
Non, on a l'impression que c'est pas suffisant. C'est pour ça que nous avons un forum national Les Voix de la Pauvreté et nous faisons parvenir dans les jours qui viennent à tous les candidats aux élections présidentielles notre manifeste qui demande que vraiment dans les programmes pour la présidentielle, la question de la lutte contre la pauvreté, contre les causes de la pauvreté soit vraiment prise en compte dans les programmes.
Ce qui vous préoccupe aussi, c'est la protection sociale notamment, qui pour vous doit être réformée.
Oui, la protection sociale, elle est par certains côtés remarquable en France, mais aussi elle est devenue extrêmement complexe, difficile d'accès pour les personnes et parfois un peu inadaptée. Et donc on lance tout un programme de travail à partir des situations réelles des personnes que nous rencontrons, qu'elles se mettent en groupe pour échanger sur leurs histoires de vie. Et en fonction de ça, progressivement, nous allons construire une compréhension de la réalité, des besoins et exprimer nos propositions pour une refondation de la protection sociale. Vous savez qu'on parle de la fusion des minima sociaux, etc. Bon, ben, ça fait partie des sujets intéressants. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est construire cette réflexion à partir de la parole des personnes qui vivent ces situations et à partir de leur expérience.
Comment est-ce que vous réagissez à toutes les personnes qui font les amalgames, notamment entre ceux qui disent, par exemple, qu'à cause de l'accueil des migrants, on ne peut plus accueillir les SDF? Quelle est votre réaction finalement?
Non, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer des pauvres à d'autres pauvres. Je pense que ça ne conduit à rien. Dans un grand pays comme la France, qui est un pays riche, il y a vraiment la place pour tout le monde. J'attire aussi l'attention sur le fait que le développement économique, il se fait à partir du travail et que autoriser les personnes de travailler, ça crée de la richesse. Et leur interdire de travailler ne crée pas de richesse, ça crée au contraire des situations de difficulté et même un coût pour la collectivité. Une personne à qui on n'autorise pas de travailler et qui est à la rue, sa santé va se dégrader, il va bien falloir la soigner et au final, c'est un mauvais calcul. Donc les études sérieuses montrent bien que l'accueil sur le long terme, l'accueil d'immigrants, d'abord il n'est pas d'aujourd'hui, il est un facteur de développement économique et de richesse pour les pays. Je pense qu'il faudrait plutôt encourager les personnes à rencontrer des migrants concrètement. Faites leur connaissance et vous verrez que c'est une joie de cheminer avec eux, de leur donner une chance de vivre paisiblement ici en France, alors que dans leur pays, ben malheureusement, ce n'est pas possible.
Pierre Keller, merci.
Je vous en prie.
On rappelle que vous êtes délégué du Rhône du Secours catholique. On va maintenant rentrer dans les faits, dans la pratique, avec la rencontre d'Abdou. C'est un migrant togolais. Bonjour Abdou, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Alaoué Abdourazak, je suis togolais. J'ai 25 ans et je suis étudiant à l'Université Lyon 2.
Comment est-ce que vous êtes arrivé en France? Quel a été votre parcours?
J'ai quitté chez moi après l'obtention de ma licence et je suis venu avec un visa touristique en provenance de mon pays pour l'Allemagne. Et une fois en Allemagne, c'était un peu compliqué, donc je n'avais pas le choix. Je suis venu en France afin de pouvoir étudier et entreprendre quelque chose.
Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre pays?
C'est par rapport à des problèmes familiaux liés à la religion et puis à une incertitude par rapport à mon avenir au fait. Parce que je me disais, j'investis beaucoup dans mes études, mais sur place, je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas de chance que je m'en sorte. Donc c'était tout ça qui a permis à ce que je parle de ce.
Alors vous aviez choisi l'Allemagne, vous l'avez dit, c'était compliqué. Pourquoi vous êtes finalement retourné sur la France?
Premièrement, avant de venir en Allemagne, en 2012, j'avais fait une demande de visa étudiant pour venir étudier normalement en Allemagne. Le visa a été refusé par le fait que j'ai un lien parental en Allemagne et que je ne viens pas pour les études, que je venais juste pour vivre avec mon père. Ils ont le doute que je venais vraiment pour les études. Quand j'ai eu la possibilité d'avoir un visa pour visiter l'Allemagne, je me disais, même si je pourrais toutefois faire des démarches administratives ou essayer de voir dans quels moyens je pourrais traduire mon père en justice parce qu'il est allemand, mais je n'ai pas envie de faire ça parce que je suis un peu dégoûté de l'Allemagne. Et donc j'ai choisi venir en France. Parce que j'ai des connaissances ici, j'ai des gens avec qui j'avais travaillé déjà à Lomé, des gens que j'ai servi, j'ai rendu service, qui vivent en France, donc ils m'ont proposé de venir ici.
Vous regrettez d'être venu en France? Comment vous vivez finalement aujourd'hui?
De toute façon, je vis pas bien, c'est pas aussi facile, mais je regrette pas du tout d'avoir été là et d'être ici en France. Si j'ai décidé quand même de partir de chez moi, c'est quand même pour venir étudier. Et vu que j'ai la chance d'étudier déjà à l'université, c'est déjà une grande chose pour moi, donc je suis très bien là.
Comment s'est passée votre arrivée, votre demande d'asile? Quelles ont été les démarches que vous avez dû faire?
Quand je suis arrivé ici, je me suis présenté à la préfecture, comme tous les autres migrants, pour faire une demande d'asile. Ils m'ont montré les procédures sur les démarches administratives. C'était un peu compliqué au début parce que je ne connaissais rien, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas les endroits, les lieux et tout. Je n'avais pas de type de transport, c'était un peu compliqué et je n'avais pas où dormir et tout. Donc, c'était pas du tout facile au début. Mais à force d'aller vers les institutions, vers les associations, de rencontrer des gens, ça a changé vraiment ma vie au fait.
Quel est votre niveau de vie aujourd'hui financièrement? Comment vous faites pour vous en sortir?
Je vis au jour le jour. Avec le CROUS, j'arrive à avoir un repas par jour. Et par le biais des restaurants à l'université, j'arrive à me déplacer avec l'aide du CEU catholique qui charge ma carte TCL. De gauche à droite, j'arrive à faire des conceptions, des affiches un peu de gauche à droite pour me permettre de me faire un peu plaisir de temps en temps. Mais je vis juste au jour le jour, j'ai pas besoin de grandes choses pour vivre. Il suffit juste d'avoir un toit où dormir, de ne pas être affamé et puis moi ça me va.
Vous nous disiez tout à l'heure que vous deviez faire des concessions, presque vous donner des excuses finalement pour pas sortir avec vos camarades de la fac par exemple.
Oui, parce qu'au début... c'était compliqué pour moi quand j'avais commencé les cours parce que j'avais cours, par exemple le mardi, j'ai cours du matin à 19h45. Ça faisait que j'étais tout le temps à la fac et de toute façon, j'ai nulle part où aller. Donc après les cours, je m'occupe dans ma bibliothèque et tout. Ça fait que j'ai eu à rencontrer des gens avec qui on est potes et puis on suit les cours ensemble. Et des fois, ils proposent « Ok, après on fait quoi? On sort, on va manger, on va faire ça, on va faire ça. » Moi, vu que moi, j'ai rien et que je dois que manger au restaurant de l'université, je leur dis « Ok, moi, je dois bosser, je dois faire ci, je donne des excuses. » Parce que déjà, quand tu t'affiches devant tout le monde, par rapport à ta situation, le regard, il est différent. Donc, je n'ai pas envie que les gens ils se sentent... obligé de m'aider ou bien de ne pas paraître à leurs yeux comme quelqu'un qui n'a rien quoi. Je sais ce que je vaux, je sais que tôt ou tard cette situation c'est passagère quoi. Donc ça va changer. Je me contente de ce que j'ai et j'ai pas envie d'être sur des gens quoi, dépendre des gens.
Vous avez expliqué pourtant votre situation à certains de vos amis, ils sont au courant?
Oui, il y a des amis à moi qui sont au courant. Il y a ma copine qui est au courant de ma situation. Il y a beaucoup de mes amis qui sont au courant de ma situation. Mais à la fac, je peux dire que j'ai que deux ou trois amis à la fac. Parce que je ne traîne pas avec n'importe qui, parce que je n'ai pas de problème. Donc, je reste dans mon coin. Donc, ceux qui s'approchent vraiment de moi, avec qui je discute de temps en temps, ils sont au courant de ma situation.
Comment est-ce que vous avez rencontré le Secours catholique?
J'ai rencontré le Secours catholique... à l'accueil Sésame à Villeurbanne. Je venais comme tout migrant. Je venais prendre du café, rester au chaud parce que c'était l'hiver en ce temps-là. Je venais aussi pour me coiffer parce que j'avais pas les moyens pour payer. Donc je venais là et pour me documenter en plus parce qu'il y avait internet, il y avait un ordinateur et tout. Donc c'est les raisons pour lesquelles moi je venais au Secours catholique. Et après j'ai fait un dossier de suivi comme tout migrant. À force de venir tout le temps et j'ai eu à avoir des relations avec des gens qui ont voulu vraiment m'aider par rapport à ce que j'ai comme talent, donc ils m'aident aussi.
Vous nous disiez que vous aviez fait plusieurs voyages à Lourdes notamment, que le Secours catholique vous a aidé à reprendre confiance en vous.
Oui, exactement. J'aime vraiment partager et puis apprendre des autres. Donc quand tu restes renfermé sur toi-même, tu perds encore plus. Donc avec le Secours catholique, j'ai eu aussi à croire en mes valeurs parce que je pensais pas aussi avoir d'importance ou bien rendre service à quelqu'un. Et c'est par rapport à leur soin disant, ça m'a vraiment trop touché, ça m'a vraiment trop surpris tout ce que j'ai eu à réaliser avec eux. Le graphiste était en arrêt maladie et c'était moi qui s'étais occupé de tous les affiches, les cartons d'invitation et tout. Donc, c'est la première fois que vraiment je mets mon talent au service d'une structure aussi grande que c'est catholique. Donc ça m'a fait trop du bien.
Vous êtes né musulman du coup et que vous êtes converti sur le tard. Comment ça s'est passé?
Vu que mon père il est parti quand j'avais 2 ans, j'ai grandi avec ma mère. J'allais dans la famille de mon père de temps en temps. J'étais entre les deux. Mais ma mère n'a pas fait des grandes études, donc elle a mis tous les moyens à ma disposition pour que j'aille à l'école. Je suis le seul de ma famille qui a le bac, qui a une licence et tout. Donc ma mère a fait en sorte que j'aille pas dans les écoles publiques où vous êtes une centaine dans la classe, l'élève ne peut pas vraiment étudier. Ma mère a fait en sorte de me mettre dans des écoles privées et ça fait que j'ai fréquenté dans une école qui était un peu catholique. Donc il y avait des cours de religion qui étaient obligatoires, on nous parlait de Dieu, Jésus-Christ et tout. J'étais pas vraiment pratiquant musulman, mais je suis né musulman, je porte un nom musulman. Et j'ai trouvé ma voie juste comme ça. Au début, personne ne savait parce que ma mère, elle est chrétienne aussi. Mais vu que je suis entre les deux, selon elle, je pratique les deux religions. Avec le temps, ma mère s'est rendue compte et j'étais même servant de messe. C'est toutes ces choses qui ont fait qu'avec la famille de mon père, il y a eu des malentendus. Donc c'est un peu simple.
Le Secours catholique vous a aussi redonné confiance en vos rêves. Quels sont vos rêves aujourd'hui ?
Moi, mon rêve, c'est de révolutionner le domaine de la communication dans mon pays ou bien en Afrique générale. Certes, il y a beaucoup de progrès qui se fait, mais j'aimerais aussi être acteur dans ce domaine-là parce que c'est ma passion. J'ai pas vraiment vécu avec mon père, mais j'ai hérité de lui ce talent parce qu'il était artiste peintre, il était footballeur. Donc, c'est la seule chose qui me lie à mon père. Donc, j'aimerais quand même gagner ma vie avec cela. J'ai envie d'entreprendre, après mes études, avoir des grands diplômes et retourner soit chez moi ou en Afrique, révolutionner ce milieu quand même. Avoir ma propre structure, mon entreprise de communication, d'audiovisuel, vu que je suis un peu dans la musique, je fais du slam, je joue de la guitare, essayer de combiner tout ça pour créer une maison de production de taille, quoi. J'ai beaucoup de personnes qui ont du talent. Mes amis avec qui j'ai toujours traité, ils sont restés à Lomé et selon eux, on peut que réussir en Europe, quoi. Donc j'essaie quand même de leur dire que c'est pas facile ici. Si je peux faire quelque chose pour les éviter de traverser les mêmes choses que moi, je pourrais soit mettre tout à leur disposition à travers ce que j'aurais en une entreprise comme ça.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux Français, peut-être même aux Lyonnais qui sont frileux à l'idée de recevoir des migrants ?
Éviter l'autre, c'est avoir peur de l'autre t'empêche quand même à connaître cette personne-là. Il faudrait que chacun essaie de faire le premier pas, de ne pas durer carrément la peur dans son cœur. Parce que l'autre, déjà moi, à travers l'autre, je me vois. Je veux vraiment leur dire de faire du bien et puis d'aider ces personnes-là qui sont dans cette situation un peu très difficile. Parce que dans la vie, c'est sûrement quelqu'un qui pourra t'aider à faire ci, à faire ça. On est pareil, il n'y a pas de différence. Moi, si j'avais la chance que ces personnes ont ici, si j'avais cette chance-là chez moi, je ne sais pas pourquoi je vais vouloir quitter chez moi, quoi. Et en plus, l'histoire a fait en sorte que notre situation en Afrique... Moi, je ne veux pas dire que c'est la faute à quelqu'un, mais quand même, ce n'est pas nous qui l'avons cherché, quoi. Si notre histoire se réunit, c'est chaque chose a son départ en fait.
La situation qui est là aujourd'hui, que vous ne l'avez pas choisie, vous la vivez malgré vous finalement ?
Oui, je n'ai pas choisi cette situation. Chez moi, je dors bien, je mange bien. Jamais j'ai dormi dans la rue, quoi. Mais en Europe, dans le pays du blanc, j'ai dormi dans la rue. J'ai passé des jours où je n'ai pas mangé. J'ai souffert, je continue de souffrir aussi. Donc, je n'ai pas choisi cette situation.
Abdou, merci.
Merci, je vous en prie.
Vous retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site du Secours catholique, secours-catholique.org.